Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale avec Tania Balachova. Le spectacle avançait avec difficulté, écrit Stanislavski. C'était normal. La pièce est très difficile. Son charme réside dans un arôme inexprimable, caché au plus profond. Pour sentir cet arôme, il faut, pour ainsi dire, prendre la fleur avec la motte et contraindre ses pétales à s'ouvrir. Mais cela doit se faire de soi-même, sans violence, faute de quoi la tendre fleur sera froissée et se fanera. Le théâtre, fondamentalement musical de Tchekhov, a inspiré à travers les générations les gens de théâtre. Monter Tchekhov est une expérience incontournable, voire indispensable. Depuis Stanislavski, Lepitoïev, jusqu'à Georges Lavaudant, Peter Brook.
Tania Balachova, qu'évoque pour vous le mot vacances ?
Ça évoque promenade, marche. Marche dans des chemins à grosses ornières bien profondes, avec bien entendu des boulots. Je pense que ce sont les souvenirs d'enfance qui font que j'ai besoin de boulots dans mes promenades.
Pourquoi des boulots ?
Giraudoux disait que c'était un arbre russe. Et je crois que c'est vrai.
Vous avez des souvenirs d'enfance qui se rapportent à la Russie ?
J'en ai fort peu. Et ils me reviennent à l'improviste. Je ne sais jamais qu'ils vont me revenir. J'ai quitté la Russie très tôt.
Vous prenez beaucoup de vacances à l'heure actuelle ?
Je prends pas mal de vacances. C'est là que je travaille. Et je crois que c'est en vacances que j'ai appris mon métier.
Que voulez-vous dire ?
Eh bien, je veux dire qu'à Paris, comme je suis très paresseuse, je ne travaille pas. Je vais au cinéma et je joue aux cartes. Je regarde la télé. Je joue la comédie, je répète. Mais en vacances, je rêve mon métier. Et je crois que les choses les plus précieuses que j'ai apprises depuis toujours, même avant d'être comédienne, c'est en vacances, en me promenant. Je me raconte des histoires, et se raconter des histoires, c'est faire du théâtre. C'est jouer la comédie, c'est inventer des personnages, c'est re-rêver ceux qu'on a déjà joués, c'est rêver les grands rôles qu'on ne jouera jamais. Tout ça, c'est les vacances. Je crois que pour bien jouer, il faut être en état de réveillé, de somnambulisme. Et c'est très difficile à atteindre en scène parce que on a les spectateurs qui vous aident, mais qui vous jugent. Et que on rêve les spectateurs en vacances, mais ces spectateurs-là ne vous jugent pas. Alors on est très bien.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers le théâtre ?
Le besoin. Besoin comme on a soif ou faim. Tout le monde me disait, mais Tania, tu es timide, maladroite, tu es renfermée, qu'est-ce que tu vas faire au théâtre ?
Vous aviez quel âge ?
Moi, j'ai décidé à 13 ans. J'ai affirmé que j'avais décidé à 15 ans. Mes parents voulaient que je fasse des études d'ingénieur parce que j'étais douée pour les mathématiques. Très douée. Et ça m'ennuyait à mourir. J'étais aussi douée pour le chant. J'avais à 18 ans une voix d'opéra formidable. Mais je ne suis pas musicienne, je n'aime pas la musique. Et je voulais être comédienne. Alors on me disait, mais tu ne seras jamais comédienne. Je disais, mais je dirais, Madame est servie. Ça m'était là. Les gens qui parlent de psychodrame ignorent peut-être cette chose, c'est que le théâtre dénoue. La preuve, c'est que tous les bègues entrent dans des cercles d'amateurs parce que c'est le seul endroit, c'est la scène, le seul endroit où ils ne bégayent pas. Et les gens deviennent audacieux quand ils sont terriblement timides. Devant le spectateur, pas aux répétitions. Comme j'étais très mauvaise, que je me faisais engueuler à longueur de journée, que plus je me faisais engueuler, plus j'étais mauvaise, je me rends compte que les élèves ont tour à tour besoin d'être humiliés, engueulés et ensuite stimulés, ou l'inverse, quel que soit le trajet, pour se dénouer.
Et comment ça s'est passé pour vous ?
Très mal au début, j'étais la plus mauvaise élève qu'on puisse imaginer. Je m'efforçais de minauder en jouant Marivaux. Je ne voulais jouer que les soubrettes parce que je trouvais sotte toutes les filles qui voulaient jouer les jeunes premières. Et je jouais les soubrettes d'une façon tarabiscotée et odieuse. Et un jour, j'ai travaillé Grouchenka des frères Karamazov. J'ai concouru et ma mère, qui était désespérée par ce que je faisais au théâtre jusque-là, a dit que j'avais joué Grouchenka comme Dostoïevski l'aurait rêvé. Et j'étais la plus heureuse des créatures. Ouais, mais après, j'ai de nouveau été très mauvaise. C'est-à-dire que ma mère adorait le théâtre et aurait aimé que je sois une grande comédienne. Mais elle était persuadée que je serais une mauvaise comédienne. Heureusement, tout de même, elle m'a vu jouer convenablement certains rôles.
Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous ? La formation du comédien ou votre propre trajectoire d'actrice ?
Ma propre trajectoire, bien sûr, mais avec l'aide de ce que Stanislavski apportait. Et en plus, avec l'aide d'Artaud, parce que j'ai tout de même travaillé avec Artaud. Je travaillais beaucoup avec de très grands metteurs en scène, à mon avis.
Quelle est la chose capitale pour vous ? En ce qui concerne l'acteur, oui, pour le théâtre. C'est l'acteur, bien entendu, mais la qualité
non,
principale.
C'est tout de même l'auteur d'abord.
Oui,
ensuite,
bien sûr.
L'acteur et le metteur en scène, à condition qu'il aime l'acteur et pas sa propre personne. J'ai eu en Belgique un metteur en scène admirable qui s'appelait Monsieur Delacre, dont personne ne parle plus jamais. J'ai vu travailler Luniepo. Luniepo qui a découvert tout le théâtre d'aujourd'hui et qu'on a entièrement oublié. Le cartel a fait oublier Luniepo qui a découvert et Claudel et le théâtre étranger et Strindberg et Ibsen et Achard.
Vous avez travaillé
et
avec Pitaïev ?
Non, j'ai repris un rôle chez Pitaïev parce que Ludmila était fatiguée. J'ai vu travailler Dulin beaucoup, Copeau beaucoup, et Rouleau avec lequel j'ai tout appris. Si un metteur en scène travaille dans du marbre dès le début, ce n'est pas possible. Or, il y a beaucoup de metteurs en scène qui travaillent dans le marbre trop tôt, sans avoir travaillé la terre glaise.
Chose que je n'oublie pas, c'est certains de vos cours où je regrette qu'on ait pu enregistrer ce que vous avez pu dire. Parce que je crois qu'on aurait un traité de l'acteur assez prodigieux qui serait une synthèse entre tous les courants de formation d'acteur.
Oui, moi je crois,
depuis
je crois
50
que,
ans.
Comme je n'ai pas du tout de préjugés et que je n'ai pas de maître, je pense que mon enseignement est assez libre et peut-être intéressant. Qu'est-ce que vous me passez ?
L'ours de Tchekhov.
Et comment ça commence ?
Ah bah attendez, je suis pas trop curieuse.
Mais non, mais je veux savoir où vous en êtes de la pièce. Moi ça m'intéresse. Normalement, on commence par le commencement. Une pièce est en un acte.
Je viens de mettre Smirnov à la porte, Luca à la porte. Le bien. Valet.
Oui. Elle n'est pas encore en
on
ils
s'est
se
déjà,
sont
vu
déjà vu une fois.
Fois.
Okay.
Déjà vu une fois.
Il est ivre.
Il est ivre.
Oui. Il vient de boire un litre de vodka de près.
Mais il n'est pas ivre.
Oh.
Mais non, vous ne connaissez pas les Russes. Il n'est pas ivre, il est un peu exalté, mais il est toujours un peu exalté.
Je vous supplie de respecter mon repos.
Je vous supplie de respecter ma dette. Donnez-moi mon argent et je m'en vais.
Vous ne voulez pas partir?
Jean-François, c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus parlé. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette composition?
Ah, je joue, moi.
C'est pas composé, tarabiscoté. Je vous supplie de respecter mon repos. Je vous supplie de respecter ma dette. C'est tout. C'est d'une évidence totale. Et d'une violence totale, en même temps, avec des accalmies. Allez.
Je vous supplie de respecter mon repos.
Je vous supplie de respecter ma dette. Donnez-moi mon argent et je m'en vais.
Vous ne voulez pas partir?
Je ne peux pas partir.
C'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot.
Exactement le dernier.
Exactement le dernier.
Parfait, je prends note.
Prenez note, pour moi je reste ici.
Ici?
Oui, ici, assis.
Assis?
Assis, ici. À vous paire après-demain, parfait. Jusqu'après-demain, je resterai ici. Assis, oui ou... Tiens, oui ou non, répondez. Dois-je demain payer les intérêts de la Banque Agricole Impériale?
Je vous prie de ne pas crier.
Je ne crie pas.
Votre place n'est pas ici.
Et où est-elle, ma place?
À l'écurie.
À l'écurie?
Oui, à l'écurie.
Oh, je ne vous parle pas d'écurie, madame.
Et moi, je vous en parle, monsieur.
Et pourquoi?
Parce que c'est là qu'on se présente, à 6 heures du soir, pas lavé, pas rasé, en bottes, avec de la paille partout.
Ne criez pas, s'il vous plaît, je ne suis pas votre régisseur.
C'est pas moi qui crie, c'est vous qui criez. Voulez-vous sortir tout de suite?
C'est trop fort, hein?
Grâce à mon argent.
Je ne vous en donnerai pas d'argent. Ah, je ferai exprès de ne pas vous en donner. Pareil que pec.
Oh, mais je ne suis ni votre mari, ni votre régisseur, ni encore moins votre amant. Ni votre fiancé. Donc, pas de scène d'argent, s'il vous plaît. Entre nous, je ne peux pas supporter ça.
C'est évident.
Bon, on va s'arrêter. Moi, je voudrais bien que Jean-François prenne le texte, parce que c'est une scène merveilleuse pour vous deux. Il faut la régler, il faut la mettre en scène, il faut la bouger. C'est une pièce qu'il faudrait que vous montiez, quoi. Ça vous amuserait. Bon?
Vous aimez Tchekhov?
Beaucoup, oui.
Et qu'est-ce que vous aimez, alors, chez Tchekhov?
Le théâtre. Beaucoup plus que les nouvelles. La Cerisée, Ivanov et l'oncle Vania et les trois sœurs. Personne n'a approché avec autant de tendresse les drames des velléités tendres. Or, en soi, ce n'est pas dramatique. On ne peut émouvoir et faire participer au vrai désespoir de ces personnages que quand on est Tchekhov. Personne d'autre n'a su le faire. À vrai dire, ils devraient tous être des personnages de second plan puisqu'ils ratent leur drame. Et Tchekhov a réussi à faire des drames avec des drames ratés. Et personne n'a su le faire.
Et pourquoi cela vous a attiré? Pourquoi cela vous a-t-il intéressé, vous?
Mais je crois que les psychanalystes sont tous d'accord, d'ailleurs, que les pires drames, ce sont les drames des gens qui n'aboutissent pas au drame. Ils se réfugient finalement dans la dépression ou dans le suicide.
Je vais m'adresser au professeur maintenant. Lorsque vous avez des élèves qui viennent, quels sont les problèmes qui se posent à vous? Les problèmes fondamentaux qui se posent à vous?
Problème fondamental, c'est la timidité. Or, je ne crois qu'aux acteurs qui sont timides. Or, ceux qui sont le plus timides sont les plus noués. Ils parlent trop bas. Ils ont des tics, ils remuent les mains, ils remuent les pieds, ils froncent les sourcils, et ne les entend pas.
Le théâtre comme thérapeutique.
Alors tous les problèmes sont là, les plus difficiles. Alors
La première chose à leur faire comprendre, c'est que ce n'est pas en se refermant sur eux-mêmes qu'ils expriment. Que leur âme immortelle s'exprimera beaucoup mieux s'ils s'ouvrent.
Et comment leur faire comprendre cela ?
Mais le faire comprendre, ils le comprennent.
Mais ça, c'est, si vous voulez, intellectuellement,
oui,
qu'ils le comprennent.
Oui, intellectuellement.
Ensuite.
Alors, je crois que c'est par, ou par l'improvisation, ou par la colère. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où ils sont tellement exaspérés contre eux-mêmes et contre moi, que tout à coup, quelque chose jaillit. Et alors, ils sont très contents et ils se disent, tiens, mais voilà le théâtre qui arrive.
Vous avez dit, vous croyez aux êtres timides. C'est un rapprochement avec vous-même ou
c'est pas seulement avec moi-même. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'obstacles à surmonter dans n'importe quel art, qu'ils soient sculpteurs de pierre, qu'ils soient peintres, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient écrivains, la facilité est un obstacle terrible. Parce qu'il faut avoir des problèmes et les vaincre. Pour devenir quelqu'un, il faut avoir quelque chose à exprimer. Moi, j'ai eu des élèves merveilleusement doués qui lâchaient immédiatement. Ils étaient brillants, ils étaient séduisants, ils avaient une belle voix, ils jouaient n'importe quoi.
Est-ce que vous
Tout
croyez
était
à
ouvert.
Ça aussi, la
ils
belle
lâchaient.
Voix
Mais bien sûr que c'est important, la belle voix.
En
c'est
général,
pas la
c'est
première
qui...
chose.
Donc, si je comprends bien, lorsque vous avez, pour en revenir alors à vos élèves, vous traquez un peu la timidité.
De deux manières. Par la confiance, par les stimulants à l'imagination, et ensuite, et ce n'est pas voulu chez moi, par la colère. Il arrive un moment où l'élève me met en colère, dans une colère rouge, noire et très violente, qui fait que l'élève se met à pleurer, j'ai honte, mais je continue. Et après avoir pleuré, l'élève tout à coup s'abandonne et se livre. Et nous nous réconcilions. Et tout ça n'est pas concerté. Tout ça vient parce que je sens que l'élève est sur le bord d'apparaître. Et ça m'exaspère. Mais la colère, pour moi, est quelque chose de très bénéfique. Pas la violence, mais la colère. Nicolas ?
Oui.
À vous.
Merci.
C'est Caligula ?
Oui.
Quelle scène ?
La dernière scène. Des bruits d'armes. C'est l'innocence qui prépare son triomphe.
Vous pouvez presque rire. Vous êtes...
C'est l'innocence qui prépare son triomphe.
Il y a la dérision et... la nostalgie de l'innocence.
Que ne suis-je à leur place ? J'ai peur. Quel dégoût, après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme.
Attention, pas les autres.
Les autres. Quel dégoût, après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme. Mais cela ne fait rien. La peur non plus ne dure pas. Tout a l'air si compliqué.
Si vous pouviez vous asseoir, ça me ferait bien plaisir. Et que vous retourniez dans la vie.
Tout a l'air si simple. Si je n'avais pas la lune... Si l'amour suffisait, tout serait changé.
Vous voyez, vous découpez de nouveau.
Oui.
Il faut rattraper, là. Tout a l'air si simple. Je n'avais pas la lune, mais s'il y avait l'amour...
Et... Tout a l'air si compliqué. Tout est si simple pourtant. Si l'amour suffisait, si j'avais eu la lune, tout serait changé.
Vous le repensez trop, vous jouez trop les mots, Nicolas. Nicolas, n'oubliez pas cette chose que je vous dis, que dans un texte très approfondi, il faut qu'il y ait beaucoup de zones où on pense, je le sais déjà, je l'ai déjà dit, je le répète pour la forme, mais ça n'a pas d'importance. Alors, si vous repensez chaque mot, les points culminants d'une scène disparaissent, parce qu'il y a trop de points culminants et pas assez de vallées. Alors, essayons.
Tout a l'air si compliqué. Tout est si simple pourtant. Si je n'avais pas la lune, si l'amour suffisait, tout serait changé.
Vous ne voulez pas me supprimer toutes les virgules, tous les points virgules de cette phrase et faire une phrase de bavardage. Il faut absolument, quelle que soit la qualité du théâtre, que vous jouiez du Shakespeare ou que vous jouiez du Camus, il faut que vous appreniez à bavarder. Si vous donnez un sort grandiose à tout, le spectateur n'écoute plus. Alors bavardez, je vous en supplie. Je suis navrée que vous ne vouliez pas travailler du boulevard, moi. Je souhaite que vous appreniez à jouer du boulevard parce que c'est une école de... Il ne faut pas abrutir les spectateurs. Il faut donc qu'il y ait des zones de repos. Des zones de repos comme il y en a dans Tchekhov, comme il y en a dans tout le théâtre actuel et comme il y en a aussi dans le grand théâtre. Je pense que c'est parce que les acteurs ne jouent plus du boulevard qu'ils ne savent plus jouer le grand théâtre. Parce que dans le grand théâtre, le lyrisme à travers tout et la fausse poésie, c'est tuant. Et par contre, le genre d'acteur qui ne sait jouer que du boulevard ne sait plus donner la valeur presque musicale d'une partie d'un texte qui est mystique, qui est mystérieux, qui est grandiose ou qui est violent. Donc il faut apprendre les deux. Moi, je vous supplie d'essayer de jouer du boulevard quand vous jouez le grand théâtre.
Nous allons écouter une scène de La matinée d'un homme de lettres de Tchekhov avec Tania Balachova et Marc Ayrault.
Nous sommes dans le cabinet de travail d'Alexei Lvovitch Kistounov, homme de lettres. Alexei Lvovitch a mal dormi, il s'est levé tôt. Après avoir arpenté sa chambre en se rongeant nerveusement les ongles, il entre dans son cabinet de travail, s'ébouriffe les cheveux avec décision, et dit, du temps de Laerte se disposant à venger sa sœur,
c'est révoltant. C'est le comble de l'irrespect pour le temps et le travail d'autrui. En Angleterre, un pareil individu n'aurait pas gagné un sou. Il serait mort de faim. Mais attends un peu quand tu seras là.
Bonjour. Hein?
Bonjour.
Évidemment, vous ne vous souvenez pas de moi. J'ai le plaisir de faire votre connaissance chez les Khrutsky. Je suis Mourashkina.
Ah, oui, bien sûr, Mourashkina. Et que puis-je pour votre service?
Voyez-vous, je suis une grande admiratrice de votre talent. Je lis tous vos articles avec plaisir. Si. Ne croyez pas que je vais vous flatter. Je vous lis toujours. Et dans une certaine mesure, je ne suis pas moi-même étrangère à l'œuvre créatrice. C'est-à-dire, je ne me permets pas de m'intituler écrivain, mais j'ai quand même une goutte de miel dans ma ruche. J'ai publié à différentes reprises 3 récits pour enfants. Vous ne les avez pas lus, naturellement. J'ai beaucoup traduit et mon frère défunt a collaboré à la revue d'Odessa.
Ah oui. Mais que puis-je pour vous ?
Voyez-vous, je connais votre talent, vos opinions, j'aurais voulu avoir votre avis. Ou plutôt, vous demander un conseil. Je dois vous dire, pardon pour l'expression, que je viens d'accoucher d'un drame.
Ah oui.
Et avant de le soumettre à la censure, j'aurais voulu connaître votre appréciation.
Ah, mais très volontiers. Laissez-le-moi, je le lirai avec plaisir.
Alexeï Lvovitch, je sais vous êtes occupé, chaque minute vous est précieuse. Je sais que dans le fond de votre cœur, vous m'envoyez à tous les diables. Si. Mais soyez bon. Permettez-moi de vous lire mon drame maintenant. Soyez gentil.
Ah, maintenant ?
Oui.
Tout de suite ici ?
Oui, tout de suite.
Ah oui, ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, je... Oh, vous entendez, je suis obligé, excusez-moi, on m'appelle.
Alexeï Lvovitch, je suis impertinente, importune, mais soyez magnanime. Demain, je pars pour Kazan, j'aurais voulu connaître aujourd'hui votre opinion. Faites-moi cadeau d'une demi-heure, une seule petite demi-heure, je vous en supplie, une petite demi-heure.
Une demi-heure ?
Une demi-heure, merci. J'étais sûre que vous le feriez pour moi.
Une demi-heure, oui.
Cela s'appelle « Demain ». Que pensez-vous du titre ?
Oui.
L'action commence dans un salon assez luxueux. Je vais vous dire les personnages principaux. Il y a d'abord la jeune demoiselle, Anne Sergeyevna, qui a bâti au village une école et un hôpital. Puis son père, le général, qui ne peut supporter les opinions de sa fille, veut la marier à un riche marchand et trouve que le peuple doit rester dans l'ignorance. Ensuite, il y a Valentin Ivanitch, le fils de l'instituteur pauvre qui assiste son père malade. Valentin a appris toutes les sciences, mais il ne croit en rien, ni en l'amitié, ni en l'amour. Il n'a pas de but dans la vie et attend la mort. C'est d'ailleurs pourquoi la jeune fille doit le sauver. Acte 1, scène 1, le valet de chambre, la femme de chambre. La femme de chambre. Si jamais...
Oh, qui diable t'a amené ici ?
On m'avait dit...
Est-ce ma faute si tu as accouché dans un drame ?
C'était Mémorable, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale.